Bien, je me réjouis d'être parmi vous ce matin. C'est ma toute première convention biblique. J'ai eu la chance d'être accompagné de ma fille aînée, Marissa, et puis de nos amis d'Angers, René et Adriane Pan. Je voulais remercier en particulier les frères qui, lors de l'attribution des choix des messages, m'ont donné ce que je considère comme le thème le plus, oh, allez, le plus noble, le plus beau, c'est-à-dire l'amour de Christ pour l'Église. Alors on a eu, au cours de cette semaine, au cours de ce week-end, avec les messages, avec Emmanuel, on a eu un hors-d'œuvre, on va dire, copieux. On a eu des entrées, des plats de résistance nourrissants. Et là, bon, on en est arrivé au dessert. Alors je ne sais pas si le dessert sera bon, mais c'est un dessert quand même. L'amour de Christ pour l'Église. Mais comment se manifeste-t-il exactement cet amour? Il y a cette phrase célèbre dans le livre de Malachie où Dieu dit: Je vous ai aimé. Et que répondent les enfants d'Israël? Vous vous rappelez de cette phrase? En quoi nous as-tu aimés? Est-ce que parfois, quand nous partageons ce thème de l'amour de Christ pour l'Église, en particulier l'Église locale, puisque c'est le thème de notre week-end, nous disons peut-être en quoi nous as-tu aimés? Locaux exigus, peu de personnes présentes au culte, pasteurs au message. Bon, en quoi nous as-tu aimés? Ne tombons pas dans ce travers-là de dire, comme les enfants d'Israël, mais en quoi nous as-tu aimés? Dans nos églises de France, car l'amour de Christ se manifeste et continue de se manifester. Je vous propose de regarder avec moi un passage qui ne vous sera pas inconnu dans le livre de l'Apocalypse, une des lettres adressées à une des églises, donc Apocalypse chapitre 3, verset 7, vous allez reconnaître donc le message personnel adressé à une assemblée, à une église. Jésus s'adresse directement à une église de chrétiens dans la ville de Philadelphie. Je sais qu'il est possible de voir dans ces lettres une sorte de panorama, n'est-ce pas, de l'histoire chrétienne. C'est une perspective, si c'est possible, qui n'est pas sans certaines problématiques. Mais il ne faut pas oublier qu'en tout premier lieu, Jésus s'adressait à une assemblée dans la ville de Philadelphie. Et c'est ça qui est utile aujourd'hui. On y trouve un message personnel. En particulier, on notera, c'est une des rares occasions où on le note, Jésus va jusqu'à montrer, va démontrer, va dire son amour, directement parler de son amour pour cette assemblée locale. Voilà pourquoi c'est tellement intéressant pour nous aujourd'hui sur le thème que nous allons aborder. Donc, Apocalypse chapitre 3. Je vais lire une partie de cette lettre à partir du verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Comment Jésus démontre-t-il son amour de façon pratique, de façon précise, envers l'Église locale? Nous sommes en train de parler de votre assemblée, de l'assemblée que vous fréquentez, vous. Comment l'aime-t-il précisément? La toute première démonstration, le premier témoignage de l'amour de Jésus, c'est que Jésus s'intéresse personnellement à l'Église locale. Jésus s'intéresse personnellement à l'Église locale. J'en vois pour preuve cette lettre, mais il y a de multiples autres preuves dans nos Écritures où Jésus s'adresse à une assemblée, parfois plusieurs fois à la même assemblée. Je pense par exemple à l'Église de Corinthe, auquel Paul va envoyer deux lettres, peut-être même plus. Jésus s'intéresse directement et individuellement à votre Église locale. Aucune Église locale n'est trop inconséquente, n'est trop petite pour ne pas recevoir l'intérêt personnel dirigé du Seigneur. Le Seigneur est-il préoccupé d'une Église qui se réunit dans une maison au Maroc, de 3 ou 4 chrétiens ensemble, mais parfaitement, parce qu'il témoigne de son amour par son intérêt personnel à cette Église. Alors on a de multiples exemples, même parfois des églises assez peu réputées, comme celle de Laodicée. C'est la lettre qui suivra. Eh bien, cette église avait de gros problèmes. Pourtant, Jésus s'intéresse directement à cette église. Le temps de lui envoyer la missive et le message et de lui dire, mais reprends-toi. Et Jésus s'intéresse donc directement à l'assemblée individuelle. Il se soucie personnellement de l'assemblée dans laquelle on se trouve. Alors, il est évident que quelqu'un pourrait rétorquer, mais nous n'avons pas reçu de lettre directe. Nous aimerions peut-être une gentille lettre, ou peut-être pas, n'est-ce pas? Elle révélerait certaines choses. Peu importe, nous avons par le biais des Écritures tout ce que nous devons savoir pour notre assemblée à nous aujourd'hui. Et donc, on peut dire avec confiance que Jésus s'intéresse directement et personnellement à votre Église locale. C'est la première démonstration de son amour. Alors nous avons parfois le sentiment, nous, en particulier les responsables, mais pas uniquement les responsables, de nous mettre en quatre pour l'Assemblée. Nous sommes à charge. Et personne ne se soucie de l'Assemblée comme nous. C'est ce que nous pensons parfois. Vous savez, il ne faut jamais oublier que Jésus s'intéresse à notre Église beaucoup plus que nous. Il y a juste une différence, c'est que sa motivation à lui, elle est toujours bonne. La nôtre, parfois, on peut en douter. Jésus s'intéresse personnellement à l'Église locale. Soyez-en convaincus aujourd'hui. Il y a une deuxième démonstration, un deuxième témoignage de cet amour, c'est que Jésus voit précisément l'œuvre de l'Église locale. Jésus voit précisément l'œuvre de l'Église locale. Voilà pourquoi il nous est dit, au verset 8, « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. » Jésus voit, connaît l'engagement de chaque église locale. Il connaît la véritable situation de l'église locale. Il en fait le meilleur bilan. On peut faire venir un consultant, cela existe, figurez-vous, des consultants qui viennent, passent quelque temps dans votre assemblée. Il faut les payer aussi, malheureusement. Et ensuite, ils vous font un bilan. Il faudrait telle ou telle chose, il faudrait tel ou tel locaux. Mais vous savez, le meilleur bilan qui puisse se faire, c'est celui de Jésus-Christ. Car il connaît très précisément la nature et l'œuvre de l'Église locale. Jésus dira donc à cette Église, « Tu as peu de puissance. » Visiblement, cette Église... Peut-être n'avait pas beaucoup d'influence dans la ville de Philadelphie. Peut-être était-elle constituée en grande partie, je ne sais pas, peut-être de femmes, ou peut-être de personnes âgées, ou de jeunes, d'enfants, je ne sais pas. En tout cas, il ne faisait pas partie de la jet-set philadelphienne, n'est-ce pas? Pas beaucoup d'influence. Jésus dit, mais tu as peut-être peu de puissance, mais moi je vois que tu comptes vraiment. Je vois le niveau de ton engagement. Je le vois précisément. Qu'importe donc l'influence, en tout cas extérieure, qui semblait défaillir à ces chrétiens, ce qui compte pour Jésus, c'est donc son engagement. Elle était précieuse à ses yeux. Et donc la taille ou la puissance d'une église n'a pas une grande portée pour lui. Cela lui importe peu. Ce qui compte, il s'arrête sur le fait qu'ils n'ont pas renié son nom, n'est-ce pas? Qu'ils ont gardé sa parole. Voilà ce qui semble important aux yeux de Jésus-Christ. Et on remarque aussi que l'obéissance au Seigneur dans un domaine débouche sur une grande occasion. N'est-ce pas? Il dit, mais parce que tu n'as pas renié mon nom, verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors on se demande, on pense que, vous savez peut-être que l'église de Philadelphie était la plus orientale de toutes les assemblées, donc des sept assemblées. Elle se trouvait en amont d'une grande vallée. Et il est possible que par ces paroles, Jésus veut dire qu'en partant de Philadelphie, l'évangile va parcourir tout le plateau en fait, de la Turquie, toute la Cappadoce, tous ces villages, toutes ces villes qui se trouvent en Turquie orientale, eh bien, ils vont être touchés en partant de cette ville. C'est peut-être ça la grande occasion, parce qu'ils ont été fidèles en peu de choses. Alors, donc, c'était peut-être cette situation stratégique auquel Jésus faisait référence. Encore une fois, nous aimerions avoir le bilan comptable tel que Jésus pourrait nous le donner, ou peut-être, encore une fois, aimerions qu'il reste caché pour le moment. Cela dit, nous pouvons certifier que tout ce qui est accompli pour le Seigneur, chaque prière fervente, chaque adoration sincère, chaque service rendu au Seigneur ne passe pas inaperçu. Il ne passe pas inaperçu. Et Jésus scrute, il voit les assemblées d'un regard bienveillant, c'est vrai, et il fait un excellent bilan comptable. Et tout ce que nous accomplissons pour le Seigneur, que nous pensons n'être pas remarqué par les autres, nous l'avons accompli et personne ne l'a remarqué, en tout cas personne ne nous a jamais rien dit. Tous les messages prêchés, sans aucun commentaire après, du genre « c'était un bon message ». On ne nous l'a pas dit. Toutes les prières, tous les dons qui ont été faits, mais ils sont tous comptabilisés. Tous comptabilisés et Jésus voit précisément l'engagement de l'Église. Et voilà comment il nous témoigne de son amour. Une dame témoigne d'une journée spéciale de son enfance. Elle était fille de missionnaire en Afrique, au Congo. Et un jour, dans son enfance, il y a eu une journée spéciale. C'était pour célébrer le centenaire de l'arrivée d'une organisation missionnaire dans un coin du Congo. Et pendant le courant de cette journée, il y a eu des chants, il y a eu des témoignages, il y a eu des prières. Des gens sont venus parler de ce qui s'est passé. Et vers la fin de la journée, il y a un vieil Africain, un indigène du Congo, qui a absolument tenu à se présenter pour parler. Il a dit « Je suis vieux, je vais bientôt mourir, et si je ne parle pas, le secret va mourir avec moi. » Il a dit « Je vais vous transmettre ce qui s'est passé il y a très longtemps, quand les missionnaires sont arrivés dans notre région du Congo. » Le frère a dit « Au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle doctrine? Quelle est cette nouvelle religion qu'on nous enseigne ?» Et on a voulu les tester. Alors il a dit, on les a empoisonnés, en particulier les enfants. Il y a des enfants donc, de missionnaires qui sont décédés, d'autres qui ont été très gravement malades, mais de nombreux sont morts. Et le vieil homme a dit, mais c'est quand on a vu comment sont morts les enfants et comment ont réagi les parents que nous avons commencé à croire. Oui, toutes ces années, tous ces pauvres enfants, toutes ces mamans qui pleuraient, et personne ne savait. Mais Jésus voyait précisément l'engagement et l'œuvre de ces missionnaires. Rien ne passait inaperçu. Et Jésus voit aujourd'hui précisément tout votre engagement, tout ce qui est caché aux autres, il est comptabilisé, Jésus le voit. Alors il y a un troisième élément, confirmant, démontrant l'amour de Christ pour l'assemblée locale. On le voit dans nos versets à partir du verset 9. Jésus protège soigneusement l'église locale, notamment des attaques des ennemis. Jésus protège soigneusement l'église locale, notamment des attaques du dehors, des inconvertis qui viennent lui chercher noise. Nous voyons que les chrétiens de Philadelphie avaient de nombreux problèmes, c'est vrai. Ils avaient affaire à des juifs qui leur mettaient des bâtons dans les roues. Et Jésus a cette phrase terrible, n'est-ce pas? C'est une phrase ô combien ironique, synagogue de Satan. Alors voilà qui est terrible, qui est sentenciel. Et Jésus donc va protéger les chrétiens de Philadelphie de cet ensemble de juifs qui ne croyaient pas en Jésus et qui leur causaient des problèmes. Et il va faire en sorte que ces juifs vont venir admettre, et voilà la phrase en fait qui nous intéresse, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alors on ne sait pas encore une fois de quelle manière cela s'est fait. Y a-t-il peut-être eu certains de ces leaders juifs qui se sont ensuite, par la suite, convertis au Seigneur? C'est fort possible. En tout cas, ils ont dû reconnaître que Jésus travaillait, que Jésus était vraiment le Messie et qu'il travaillait dans cette église. Et donc Jésus les protège de leurs ennemis. Il y a un autre aspect de cette protection qui va plus loin, au verset 10. C'est un verset qui est souvent cité pour parler de la détresse, n'est-ce pas, de la tribulation. Il est possible de le voir et je pense qu'il faut y voir effectivement, voir cette interprétation que le verset 10 parle de la tribulation. Je pense qu'il faut le voir aussi au premier niveau, puisque Jésus s'adresse à des chrétiens, donc au premier siècle, et que Jésus parle à ces chrétiens de Philadelphie, et que dans leur cas précis à eux, il va leur éviter une persécution, une des nombreuses persécutions romaines qui sont intervenues au premier siècle. Et donc, nous voyons que la protection de Jésus n'est pas identique pour chaque personne ni pour chaque assemblée. D'autres ne seraient pas épargnés. Mais les chrétiens de Philadelphie seraient épargnés de la persécution imminente. Ils seraient protégés. Alors, n'est-ce pas un peu arrogant de parler de protection quand nous sommes informés aujourd'hui de la situation des chrétiens dans les pays musulmans? Les chrétiens nord-coréens, dans l'enfer du stalinisme pur et dur. Les chrétiens en Colombie, n'est-ce pas? Tiraillés, pris entre le feu des narcotrafiquants, des milices paramilitaires. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont protégées, elles? Oui, dans le sens que la protection du Seigneur ne veut pas dire l'absence de problèmes et de persécutions. Mais il nous protège aussi sur la durée, n'est-ce pas? Parce qu'en fin de verset, il dit au verset 11, je viens bientôt. Quelque part, la protection que nous donne le Seigneur, elle s'inscrit non seulement dans le présent, alors que nous passons peut-être par des difficultés, mais elle s'inscrit dans la durée, sur le fait que Jésus va bientôt revenir. Et alors nous serons là réellement protégés, réellement hors d'atteinte de toutes les attaques de l'ennemi. Au XVIIIe siècle, le roi d'Éthiopie, d'Abyssinie, puisque c'était le nom du pays à l'époque, a capturé un sujet britannique qui était innocent, qui n'avait rien fait. Et on l'a enfermé dans une forteresse. Le roi d'Angleterre a donné un ultimatum pour qu'on délivre ce sujet britannique innocent. Le roi d'Éthiopie a refusé. 7 jours plus tard, 10 000 soldats britanniques partaient le long de la côte, descendaient, quittaient leur navire, braver la chaleur et la maladie et marcher pour conquérir cette forteresse. Ils se sont attaqués à la forteresse, ils ont gagné, ils sont entrés dans le cachot, ils ont pris le sujet britannique sur leurs épaules, ils sont rentrés chez eux. L'expédition a coûté, on estime, des millions et des millions de livres anglaises pour un sujet britannique qui était réellement protégé, n'est-ce pas? Parce que Jésus protège soigneusement son Église, notamment donc des attaques des gens du dehors, des inconvertis. Eh bien, il y a une dernière manifestation de l'amour du Seigneur dans notre texte. C'est au verset 11. Vous la voyez sans doute comme moi. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Puis-je vous dire que Jésus témoigne de son amour envers votre église locale. Il le fait de cette manière. Jésus avertit clairement l'église locale. Jésus nous aime en nous avertissant, en nous disant de prendre garde. Un parent qui dirait à son enfant, qui ne lui dirait jamais de faire attention, qui ne lui dirait pas de prendre garde, n'est pas un bon parent. Ça a été plus ou moins le thème de nos rencontres. Et Jésus, qui aime son Église, l'avertit. Même l'Église de Philadelphie, oui, qui ne semblait pas avoir de problème au niveau doctrinal, Jésus avertit clairement son assemblée. Il avertit clairement, retiens ce que tu as. Attention. Retiens ce que tu as. Persévère aux chrétiens de Laodicée. Il dira, c'est au verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et donc Jésus avertit très clairement son Église. Et il nous a avertis ce week-end. C'est vrai, il nous a avertis. Ça ne fait pas toujours plaisir d'être averti, mais c'est la marque de quelqu'un qui nous aime réellement. Donc Jésus avertit clairement l'Église. Nous aussi, dans les Écritures, nous avons de nombreuses recommandations, nous avons de nombreux avertissements tout au long des Écritures, des choses auxquelles il faut faire attention. Et par le biais de ces recommandations, Jésus nous avertit. Au fait, le fait d'avoir des convictions fermes, d'être bien axé sur la parole, n'empêche pas qu'il faille faire attention, n'empêche pas le fait d'être averti. Donc justement, nous avons un excellent exemple dans cette église de Philadelphie, où tout semblait aller pour le mieux, la doctrine impeccable, le témoignage impeccable, ils tiennent bon pour le Seigneur. Mais Jésus les avertit tout de même. C'est que même avec une bonne doctrine, il y a un risque. Quel est le risque? Je pense que vous y êtes confrontés parfois. Je pense que vous l'avez vu dans d'autres, mais vous l'avez peut-être vu aussi en vous-même. Le risque, c'est qu'avec une très bonne doctrine, un très bon témoignage, on peut devenir sec, cassant, hautain et suffisant. Et à ça aussi, il faut faire très attention. Et Jésus donc avertit très clairement son Église. Oui, Jésus prouve son amour pour l'Église locale, l'assemblée auquel vous appartenez aujourd'hui, qui a peut-être peu de moyens, n'est-ce pas? Peut-être qu'il manque d'engagement de part et d'autre, mais cette Église-là, Jésus s'y intéresse personnellement. Jésus voit précisément son engagement. Jésus la protège soigneusement. Et enfin, Jésus l'avertit aussi très clairement. Nous avons besoin de tirer toutes les conclusions, toutes les implications de l'amour de Jésus pour notre assemblée. Alors on peut partir de cette convention plein de bonnes intentions. Avec la ferme assurance que le Seigneur nous donne les capacités, les moyens pour mener à bien notre mission. Mais savoir qu'il a une réelle affection, un réel intérêt pour notre assemblée, alors là, voilà vraiment quelque chose qui peut nous galvaniser, qui peut nous motiver. Quand on sait que Jésus est derrière avec un amour encore plus saint, plus fervent que le nôtre pour notre Église, ça, c'est quelque chose qui peut nous motiver à servir dans notre assemblée. Donc c'est cet amour-là, cet amour du Christ-là, qu'il faut maintenir, qu'il ne faut pas oublier. Moi, je vous laisse avec cette question maintenant. Nous sommes donc convaincus de l'amour de Jésus pour notre assemblée. Maintenant, que doit produire en nous cet amour? Que devons-nous faire, nous, dans nos assemblées à nous, pour démontrer cet amour? Ça, c'est la question, en fait, qu'il faut se poser. Ayant déjà compris que Jésus aime notre Église, c'est très bien comme ça. Oui, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire, nous, Après, c'est à nous de prendre cet amour, de nous calquer en quelque sorte sur cet amour et d'avancer. Oui, Jésus aime votre Église, soyez-en convaincus. Maintenant, c'est à nous d'aimer autant que possible notre assemblée en l'imitant.